En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Les états modifiés de conscience, voilà un sujet qui suscite l'interrogation et l'intérêt des scientifiques, des philosophes, des juristes, mais aussi des sociologues. On parle d'états modifiés de conscience dans certains cas de coma, lors d'hallucinations, d'hypnose ou de méditation. On parle aussi d'états modifiés de conscience lors d'expériences de mort imminente, une théorie encore loin d'être validée sur le plan scientifique. La conscience et ses états modifiés, c'était le thème du colloque organisé par l'association Être humain en mars 2012 à l'Institut de France. Canal Académie vous retransmet la majorité des interventions en deux parties. Retrouvez dans ce premier volet les propos introductifs de Bérénice Tournafon, présidente de l'association Être humain. Elle rappelle l'intérêt d'une démarche interdisciplinaire sur un sujet émotionnellement fort, puis retrouvez l'intervention du philosophe et sociologue Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pour une approche rationnelle de l'étrange. On retrouve sans plus tarder Bérénice Tournafon.
Chers amis, ce colloque que nous avons le plaisir d'ouvrir aujourd'hui est le premier d'un nouveau cycle de conférences donc dédié à la conscience. En dépit de très grands progrès réalisés au cours de ces dernières décennies, notamment dans le domaine des neurosciences, ni les sciences expérimentales, ni les sciences humaines n'ont percé les secrets de la conscience. Et aucune de ces sciences ne peut aujourd'hui affirmer avec autorité ce qu'elle est véritablement et quelle en est l'origine. Toutes les définitions qui en ont été données sont par conséquent imparfaites, qu'il s'agisse de la conscience de soi, de la conscience morale ou de ses acceptions mentales et cognitives. Mais il est indéniable que la conscience, dont on ne doit pas oublier le rôle crucial dans l'évolution biologique et dans la survie du genre humain, demeure essentielle dans la perception que nous avons du monde qui nous entoure et de notre propre existence. À partir de là, deux visions totalement différentes s'opposent quant à sa nature. En caricaturant à dessein, on peut dire que l'une tend à considérer que la conscience est une expression de l'esprit qui serait en partie une manifestation de la divinité, ce qui expliquerait pour les tenants de cette conception les expériences prophétiques et le surnaturel. L'autre vision tend à considérer que la conscience n'est qu'une manifestation du fonctionnement du cerveau ou plus largement du corps humain. Elle serait une superstructure produite par le vivant et donc nécessairement éphémère, comme une sorte d'aboutissement du processus vital. Entre ces deux conceptions, il y a évidemment une multitude de variantes, plus ou moins cohérentes d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit et quelles que soient nos convictions profondes à ce sujet, nous ne pouvons à l'heure actuelle rien prouver, rien démontrer sur l'exactitude de ces approches. D'où la prudence et l'humilité qui devraient nous guider dans notre quête de découverte de ce mystère ou tout simplement dans la pratique de nos croyances. Malheureusement, cela n'est pas ce qui se passe le plus couramment, tant l'histoire du monde nous donne le spectacle du fanatisme et de l'intolérance, d'un côté comme de l'autre. Et ce, d'autant plus que la croyance intolérante l'emporte le plus souvent sur la recherche de la connaissance. D'autant que les enjeux sont considérables. Les modèles politiques, économiques et sociaux et les intérêts qui s'y rattachent sont en effet en grande partie inspirés par ces conceptions. Lors de notre précédent cycle de conférences sur l'homme contemporain à travers la science, la morale et la politique, il a été question de l'importance de repenser nos modèles pour tenter de trouver des solutions aux problèmes actuels. Dans ce contexte, mieux appréhender la conscience humaine par les activités de recherche pourrait donc avoir des incidences tant sur le plan politique qu'économique et social. Évidemment, tant que l'on ne sait pas, tant que l'on ne connaît pas, on choisit un mode de vie en société et un mode de gouvernement en fonction de ses croyances. Et lorsque celles-ci sont inadaptées, la déception est inévitable. En revanche, mieux savoir et connaître permettrait justement de faire évoluer ses choix pour qu'ils soient plus adaptés à ce que nous sommes, mieux ajustés à ce dont nous avons besoin. Les modèles politiques et sociaux sont donc fondés sur une idée de l'homme et de la conscience. Ils peuvent donc évoluer si nos connaissances en ce domaine évoluent. De même que le droit d'ailleurs évoluera. Alors à l'occasion de nos précédents colloques lors de l'étude de l'influence de la morale et de la conscience collective et des émotions qui en découlent, il a été flagrant de constater combien cela contribue à nous forger une vision du monde, mais aussi modifie nos comportements, influence nos choix de vie et peut même avoir un impact sur notre santé physique et mentale. Il est en effet édifiant de constater la puissance d'influence de l'esprit sur le corps et de voir à quels résultats concrets cela peut aboutir. Bon nombre de phénomènes, même très répandus, tels que le stress par exemple, démontrent d'ailleurs l'importance indéniable des influences du psychisme sur l'équilibre physiologique. Notre démarche a été en grande partie jusqu'alors de mieux comprendre les interactions entre matérialité et spiritualité, émotion et santé, émotion et société, et leur incidence dans le domaine politique. Et là, précisément, s'il existe une transcendance, s'il existe une force qui irrigue la matière, alors le mode de gouvernement doit la prendre en compte. Mais alors comment et que sait-on de la transcendance ? Au contraire, si elle n'existe pas et que l'on ne peut se référer qu'à la raison humaine, force est de constater que celle-ci n'est pas toujours à même de comprendre les phénomènes complexes de notre environnement. C'est le risque de voir triompher la loi de la matière, la loi du plus fort, du plus riche, du plus grand nombre aussi. Mais là aussi, que sait-on de la matière ? Hubert Reeves rappelait récemment à l'occasion d'une interview dans un quotidien national que les scientifiques ne connaissaient que 5% de la matière et que les 95% restants restaient un mystère. C'est donc aussi en confrontant les points de vue, en favorisant les échanges interdisciplinaires et le dialogue, que nous voulons contribuer à faire évoluer les activités de recherche et par conséquent nos connaissances sur la conscience, ses mécanismes d'expression et sa nature. À cet effet, nous avons donc prévu plusieurs matinées conférences, deux dont celle-ci porte plus précisément sur les états modifiés de conscience. La conscience étant entendue ici dans son acception mentale, l'idée étant qu'en commençant à montrer les frontières de la conscience ou les manifestations de ces états modifiés extrêmes, nous arriverons mieux à préciser ce qu'elle est. D'autres matinées conférences porteront plus généralement sur la nature de la conscience. La prochaine matinée aura lieu le 21 mai. Nous l'étudierons donc au travers du prisme des sciences dures, mais aussi des sciences humaines, du droit et de bien d'autres disciplines encore. Alors, explorer pour commencer le domaine des états modifiés de conscience ne sera pas chose facile, car nombre de phénomènes tels les états méditatifs, l'hypnose, les rêves et de nombreux autres encore demeurent intrinsèquement mal expliqués par la science actuelle. Nous essaierons de voir ce que peuvent nous apprendre ces états modifiés de conscience sur notre propre nature. Les anciens, pourtant dépourvus de moyens techniques et scientifiques, avaient l'intuition que le rêve et d'autres états de conscience modifiés étaient des ponts vers d'autres univers. Force est de reconnaître que les états modifiés de conscience nous révèlent parfois une perception de la réalité bien différente de celle que nous avons à l'ordinaire, d'autant que la notion même de réalité peut être elle-même discutée sur le fond. Nous écouterons à ce sujet lors de la première partie de la matinée, donc présidée par le professeur François Théré, une première intervention du professeur Jean Béchler, suivie d'une intervention du professeur Pierre Buzer et une discussion lors de la deuxième partie de la matinée s'en suivra avec deux invités que nous avons tout spécialement conviés à participer à cette discussion qui sont le docteur Jordan et le professeur Bertrand Meust. Voilà, je vous remercie.
Merci. Mon propos sera strictement épistémologique parce que, étant donné la nature des sujets abordés, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les séances ultérieures, il importe de manière suprême de prendre toutes les précautions scientifiques et toutes les garanties nécessaires. Un mot sur mon intérêt personnel pour ce sujet. Il repose sur deux motivations strictement scientifiques. Je me suis livré, il y a maintenant un certain nombre d'années, à une vaste enquête ou exploration de la nature humaine que j'ai appliquée délibérément à la normalité la plus courante, en laissant en creux deux autres dimensions de la nature humaine, l'anormalité, anormalité comme pathologie, mais que j'avais abordée dans une vie antérieure dans ma thèse sur les suicides, d'une part, et d'autre part, l'étrangeté ou le paranormal. Deuxième motivation, beaucoup plus actuelle, je consacre une bonne partie de mon temps depuis un certain temps à une autre enquête sur les religions. D'une manière générale, les religions dans les sociétés humaines. Or, lorsqu'on aborde ce sujet, vous le savez tous, j'imagine, tous les phénomènes étranges, je n'aime pas beaucoup le mot paranormal, tous ces phénomènes transmis par la documentation de toute nature sont mécaniquement traités comme infondés, illusoires, superstitieux par la science des religions ou bien comme ne relevant pas de son ressort. Ce n'est même pas explicite, c'est implicite. Bon. Ce qui me paraît une position épistémologique pour le moins douteuse. En effet, ou bien ce sont des illusions sans fondement aucun, et dans ce cas, la crédulité humaine devient un problème scientifique, fondamental. Ou bien, au contraire, il y a des faits avérés, du moins en partie, et dans ce cas, le paranormal ou l'étrange devient un problème scientifique. Donc, dans toutes les hypothèses, il faut s'y intéresser d'une manière plus précise et plus approfondie. Alors, je me suis un peu occupé de la littérature sur le sujet. Elle est abondante depuis 2 siècles, pas autant que l'on pourrait le supposer avant de l'avoir abordée. On fait assez rapidement le tour, je ne dis pas exhaustif, mais enfin tout de même, de la question, ce qui m'a conduit à 2 conclusions. Première conclusion, le constat de l'universalité de l'étrangeté à travers le temps et l'espace, ce qui n'a rien de bien nouveau. Et deuxièmement, ce qui est un peu plus inattendu, une homogénéité très élevée de l'étrangeté. Autrement dit, les classes de faits sont en nombre limité et toujours les mêmes, ou à peu près, dans les différents contextes culturels et même les plus différents possibles. Ce qui conduit à avancer 2 hypothèses au sens scientifique du terme. Première hypothèse, tout à fait plausible, la nature humaine dispose d'un programme ou d'un logiciel qui induit les humains à produire et à admettre des étrangetés illusoires. Deuxième hypothèse, la nature humaine dispose de facultés qui habilitent certains humains à produire des phénomènes étranges, du moins dans certaines circonstances. Autrement dit, il m'apparaît, à moi en tout cas, que, illusion ou non, une question est posée à l'anthropologie, entendue comme la science du règne humain, et qu'elle doit trouver une réponse. Malheureusement, ce type de sujet a la vertu étrange de mobiliser 2 populations déraisonnables. La première est celle des crédules, c'est-à-dire certaines économies psychiques ainsi configurées, qu'elles sont avides de l'étrange. C'est une population, évidemment, à fuir absolument par l'anthropologie comme science, mais à prendre comme objet de cette science, parce que ça fait partie des réalités humaines. Et deuxième population, celle des positivistes, c'est-à-dire certaines économies psychiques ou cognitives, ainsi formatées, qu'elles disqualifient sans examen aucun les faits et réputent crédule la décision d'examiner les faits. Entre ces 2 populations, le raisonnable, si vous voulez, est dans une position inconfortable, si bien que notre entreprise n'est pas sans risque. Et l'expérience du passé, telle que l'a décrite surabondamment M. Meust en particulier, le démontre. Il importe donc de commencer par définir un point de vue strictement rationnel sur l'étrange, qu'il s'avère illusoire ou réel, ou bien, pourquoi pas, illusoire et réel, il n'y a aucune raison que ce soit ou bien, ou plus ou moins, on ne peut pas le savoir à l'avance. Pour ce faire, je soutiendrai le point de vue suivant. Il y a à la disposition de l'intelligence humaine 3 modes de connaître rationnel, un mode empirique, un mode scientifique et un mode réflexif, à la fois strictement distincts et complémentaires, qui permettent de construire un point de vue rationnel et raisonnable sur ces questions. Et je me propose de vous exposer rapidement comment je vois ce point de vue. Je commencerai par ce qui est peut-être le plus simple, mais c'est dans son principe, mais pas dans son application, le mode empirique. Alors ce mode est connu, il mobilise une succession d'opérations que l'on peut ramener à 4 fondamentales, l'observation, la classification, l'induction et l'inférence. le but des opérations est de permettre de porter un jugement sur la réalité des faits. Alors, c'est bien entendu le point de départ de toute enquête rationnelle dans tous les contextes culturels et son point d'arrivée en termes de vérité avant l'émergence du mode scientifique. Autrement dit, c'est le mode spontané de connaître rationnel de l'espèce humaine. Alors, quelques mots sur les opérations. L'observation, on peut la définir comme un mode délibéré de perception de certains phénomènes. Cette définition soulève immédiatement un certain nombre de questions et souligne les risques très élevés que rencontre l'observation. En effet, si c'est délibéré, des préjugés peuvent peser sur la sélection des phénomènes observés. On peut donc négliger ce qui n'est pas sélectionné. On peut injecter dans les phénomènes ce que l'on s'attend à y trouver. Dans toute perception, on apprend ça en classe de philo, il y a un jugement. Et donc, tous les risques de biais sont extrêmement élevés. Et donc, l'observation n'est pas une disposition naturellement conformée, mais un habitus qui résulte de l'apprentissage, de la pratique et de la critique des pairs. Alors, deux applications sont possibles, tout à fait différentes. Soit on a affaire à des cas uniques, rares, isolés, et ici l'observation exige le talent de l'historien, ou bien on a des cas nombreux, ubiquitaires, communs, et l'observation exige plutôt le talent de l'expérimentateur. Dans tous les cas, les observations rapportées doivent évidemment être soumises à la critique ouverte en proportion des probabilités de biais. Ça va presque sans dire, mais il vaut mieux le dire. Deuxième opération, la classification, qui consiste à ranger le même avec le même et l'autre avec l'autre. Mais cette simple définition, à nouveau, soulève des difficultés considérables. En effet, le critère du même et de l'autre ne sont jamais uniques ni univoques. Ceux qui ont pratiqué les classifications le savent. Donc, il y a toujours plusieurs classifications possibles. Et par conséquent, on peut toujours s'interroger sur la pertinence du critère retenu. Si l'on décide que la bonne classification est celle qui sert l'enquête, ce qui paraît plein de bon sens, bien les risques de biais du fait des préjugés sont évidemment très élevés. Enfin, une classification reçue peut faire passer à côté de rapprochements instructifs. Et donc, il faut se méfier des classifications. Et l'idéal serait de temps en temps de redistribuer les cartes pour voir ce que cela donne. Malheureusement, il n'y a pas de règle absolue à appliquer mécaniquement qui permettrait de classer ou de classifier d'une manière efficace. C'est plutôt un art de la classification, procédant par la réitération des vérifications et, si possible, par la redistribution des cartes. Cela n'est possible que dans le cadre de communautés de pairs qui s'y emploient et ça ne peut pas être une réussite individuelle. Troisième opération, l'induction, qui consiste à généraliser les phénomènes observés à propos d'une classe définie, à l'ensemble des occurrences possibles. Eh bien, tous les savoirs empiriques accumulés dans toutes les cultures humaines depuis des millénaires reposent sur l'induction ainsi définie. Le grain de blé semé dans certaines conditions donne des épis de blé. Le soleil se lève tous les matins à l'est, au-dessus de l'horizon, etc. Tous les trésors, si vous voulez, de savoirs vrais d'ailleurs, résultent de l'induction. Alors, dans le cas des états modifiés de conscience, les EMC, si vous voulez, bon, et de l'étrangeté plus généralement, l'induction est une application extrêmement délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, on peut tomber sur des occurrences sinon uniques, mais du moins très rares, et qui ne sont presque jamais rigoureusement identiques. Et par conséquent, les risques sont élevés d'induction abusive et de conclusion hâtive. Donc la prudence conseille de s'en tenir au point de vue de l'historien qui s'occupe par priorité des occurrences singulières documentées et ne les met en série qu'avec les meilleures raisons de le faire. On pourrait parler ici de l'art de la casuistique, c'est-à-dire de l'analyse des cas. Enfin, dernière opération, l'inférence. s'agit de tirer des conclusions d'observation, de classification et d'induction, de manière à aller plus loin de ce que ces trois opérations énoncent. Par exemple, aboutir à la conclusion que les mêmes causes ont les mêmes effets, que de l'ordre règne dans la nature, tout passe, les hommes sont méchants. Ce sont des inférences. Alors, à propos de l'étrange et des états modifiés de conscience, le risque est presque infini que l'on prenne appui sur des faits plus ou moins avérés pour se précipiter dans le non-rationnel et l'irrationnel, car il pourrait bien se faire que le psychisme humain aspire au merveilleux et donc que l'attitude strictement rationnelle soit très difficile à maintenir, surtout lorsqu'on s'occupe de ces questions. Alors, à quel résultat peut-on s'attendre en pratiquant le mode empirique ? D'abord, il est strictement confiné dans l'établissement des faits, dont le seul critère est qu'il soit avéré au-delà de tout doute. Par implication, tout ce qui est en deçà de tout doute doit être réputé douteux. Cela dit, une fois les faits avérés, la raison empirique ne peut pas aller plus loin. Elle est coupée de toute explication rationnelle des faits. Donc, si l'on veut une explication des faits avérés, il faut les chercher ailleurs, dans la rationalité scientifique, dont je vais dire quelques mots tout de suite. Par implication, toute explication non scientifique est nulle et non avenue, car elle est soit tautologique, la vertu dormitive du pavot, soit mythique, bon, un récit explique pourquoi, ou bien non rationnelle, en faisant référence à des indémontrables, par exemple des manifestations divines ou d'esprit, ainsi de suite, c'est indémontrable, donc c'est sinon irrationnel, du moins non rationnel. Il est impossible, à partir du mode empirique, de parvenir à une quelconque explication. Par conséquent, l'attitude rationnelle en matière d'étrangeté est définie par le souci incessant et acribique des faits, d'une part, et d'autre part, pour les mettre, pour les soumettre à un questionnement scientifique. En quoi consiste-t-il ? Ce sera mon deuxième point. Je crois qu'il importe de distinguer la science et les sciences. J'entendrai par la science un certain mode, défini par certaines opérations, un certain mode de connaître. Et les sciences, les applications du mode à des segments du réel. Alors, la science, bon, j'imagine que vous savez tout ça, donc je passerai rapidement. On peut la ramener à l'enchaînement de quatre opérations, radicalement différentes de celles que nous avons vues dans le mode empirique. Première opération, une hypothèse ainsi construite qu'il doit être possible d'en déduire des propositions en forme de prédictions vérifiables. Selon la formule générale, si l'hypothèse est vraie, alors on devrait observer ceci. Alors l'hypothèse n'a pas à être vraie, ce n'est pas sa fonction. Elle doit être seulement logiquement cohérente et plausible aux yeux du bon sens. Alors bon, selon les contextes, cette plausibilité peut varier. Mais en gros, c'est le point important, elle n'a pas à être vraie. Deuxième opération, des expérimentations ainsi conduites qu'elles permettent de vérifier si les déductions sont exactes ou non, sont vérifiées ou non. C'est ce qu'on appelle les prédictions, d'un mot fâcheux, parce que spontanément on pense à des prédictions sur l'avenir. Donc la science prédit l'avenir, enfin même dans le domaine physique, si vous voulez, elle prédit ce que l'on doit observer si l'hypothèse se vérifie. Mais il y a deux modes très différents d'expérimentation, tellement si différents qu'on ne soupçonne pas toujours qu'elles relèvent de la même problématique. Première possibilité, c'est la production à volonté et sous contrôle d'expériences dont il est possible de faire varier indéfiniment les paramètres. Mais ça n'est pas toujours possible. Et donc, quand c'est impossible, il faut recourir à des faits advenus indépendamment de toute tentative d'expérimentation, et de les faire servir à des fins d'expérimentation, ce qui est évidemment tout à fait différent. Et en particulier, cela conduit à la nécessité de recourir au mode empirique, qui est indispensable pour la production de faits qui servent à l'expérimentation. Alors, c'est le cas, pour ainsi dire, en permanence dans les sciences dites humaines et sociales, en histoire, on ne peut pas faire autrement, mais c'est vrai aussi en astronomie. Enfin, on ne peut pas faire varier les amas de galaxies, les galaxies, et ainsi de suite, en laboratoire. Troisième opération que j'appelle une exploration. En effet, la probabilité est nulle que l'expérimentation vérifie l'hypothèse du premier coup. Il faut donc recommencer. Et donc, on est engagé dans une procédure par essai, échec, tri, cumulation, consolidation, qui ne peut être prise en charge que par des communautés de pairs reliées en réseau à travers les générations. Ce qui conduit à des considérations tout à fait décisives sur les structures sociales et politiques et morphologiques susceptibles de favoriser cette matière grise, si vous voulez, ce super cerveau qui est indispensable à l'exploration scientifique. Et enfin, quatrième et dernière opération, des explications qui sont promises à la fin des explorations quand une hypothèse et des déductions résistent à toutes les expérimentations. Voilà, très rapidement, la science. Alors, les sciences sont des applications à des segments du réel. Elles peuvent, par principe, se diversifier à l'infini. Et l'expérience prouve que, depuis le début de la science, entre 1600 et 1630, bien la diversification des sciences n'a cessé de se creuser au point de compromettre peut-être l'avancement des sciences. Mais c'est une autre question. Alors, cela dit, tout de même, elle se range, d'après les enseignements de l'histoire des sciences, en quatre, enfin une classification en quatre départements, si vous voulez, très clairement distincts, qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler un règne du réel, à des règnes du réel. Bon, il y a un règne mathématique dont j'ignore tout, exploré par les mathématiciens. Il y a un règne physique, il y a un règne vivant, et il y a un règne humain. On peut donc postuler, et constater d'ailleurs, qu'il doit y avoir quatre sciences fondamentales, chacune consacrée à un règne, et chacune enracinée dans une hypothèse. Alors, quelle est l'hypothèse sur laquelle reposent les mathématiques? Je reprendrai celle de Hilbert, un mathématicien allemand de la fin du 19e et première moitié du 20e siècle, qui posait en postulat que tout objet mathématique est réel qui n'est pas logiquement contradictoire. Et il a essayé de déduire toutes les mathématiques à partir de ce point de vue. Je n'ai pas la moindre opinion sur cette question. Dans le règne physique, ma foi, depuis quatre siècles, se vérifie le postulat que la nature inanimée est écrite en langage mathématique, et ces vérifications ne cessent d'être confirmées par la mécanique quantique en particulier. Le vivant, alors là je parle sous le contrôle de mes confrères beaucoup plus compétents, on peut dire que le vivant est écrit en langage systémique, c'est-à-dire des organisations téléonomiques, autoconstruites, autocorrectrices, autoperpétuées, évolutives, adaptatives. Et enfin l'humain, dont je me suis occupé plus particulièrement depuis plus d'un demi-siècle, et pour lequel j'ai essayé de défendre le point de vue qu'il est écrit en langage stratégique, c'est-à-dire que toute la matière historique du règne humain résulte de l'application des êtres humains à résoudre les problèmes qui se posent à eux et qu'ils se posent. Alors, dans ce cadre général, il y a évidemment une place a priori pour une science de l'étrange, puisque ce soit des illusions ou des réalités, ben les illusions sont des réalités. Et donc, il y a place pour une science de ce segment extrêmement étroit du réel. Comment appeler cette science? En recourant au grec, on a deux possibilités. Étrange en grec se dit atopos, donc ça donnerait l'atopologie. Malheureusement, on confondrait avec la topologie. Et il y a l'autre mot, tomastos, qui veut dire étrange. Et donc, on peut parler de tomastologie. C'est un simple clin d'œil. Donc, je répète, quelles que soient les conclusions du mode empirique sur la réalité des faits, sur la part d'illusion, sur la propension au merveilleux, sur la crédulité humaine, il y a un objet susceptible de donner lieu à la fondation et au développement d'une science. À quel règne rattacher la thomastologie ? Le plus évident, évidemment, c'est de la rapporter au règne humain et à l'anthropologie. Si on adopte cette position pleine de bon sens, et je ne vois pas comment éviter de s'y rallier, eh bien, il faut, comme pour toute science de l'humain, conjoindre la philosophie, l'histoire et la sociologie. Et une hypothèse pourrait être formulée à cet égard, que j'énoncerai dans les termes suivants, mais sans aller jusqu'au martyr pour la défendre. L'espèce humaine est ainsi dotée naturellement qu'elle est à la fois bornée par des horizons indépassables et poussée à vouloir les dépasser, et que pour résoudre ce dilemme, elle prend appui sur des faits étranges, réels ou inventés. Cette hypothèse n'est victime d'aucune contradiction logique, elle passe l'épreuve du bon sens, et je suis persuadé, je suis sûr, qu'on peut en déduire toute une série de prédictions à soumettre à expérimentation, selon la ligne que j'ai indiquée. Mais il est tout aussi apparent que le règne vivant et la biologie sont directement concernés par ces phénomènes. En effet, tout fait avéré que l'on peut rattacher au psychique et au neurologique, par exemple tous les états modifiés de conscience, dont les états mystiques, les hypnoses, les états de mort imminente, enfin bref, tous ceux dont nous avons choisi de nous occuper dans les séances suivantes, relèvent évidemment de la neuroanatomie, neurophysiologie, enfin mon confrère Buser en parlera plus savamment. Et d'une manière générale, l'espèce humaine est une espèce du vivant, une espèce animale, et serait tout de même prodigieux que l'on pût l'étudier sans introduire, plus que des considérations, des développements de nature biologique. Alors, pour certains phénomènes, on peut avancer l'hypothèse qu'ils relèvent du règne physique, et que par conséquent, la science physique, ou du physique, si vous voulez, doit être mobilisée. Par exemple, s'il s'avérait que les faits de lévitation sont confirmés. Et bon, malgré tout, il faut vraiment avoir le scepticisme accroché au corps pour ne pas se laisser persuader. Il s'agit d'une suspension de la gravité, si vous voulez, c'est même un phénomène qui doit relever de la physique. Alors, je n'ai pas la plus petite idée de l'explication, mais c'est de ce côté-là qu'il paraît raisonnable de chercher. Ou bien, c'est une hypothèse qui a été lancée il y a une bonne trentaine d'années par Penrose, comme le cerveau est malgré tout composé en dernière analyse d'atomes et de particules, il doit y avoir une possibilité d'étudier le cerveau au niveau quantique. Et donc, il est possible que l'on trouve dans cette direction un jour de quoi avancer la compréhension des états modifiés de conscience. Alors, cela dépasse évidemment totalement mes compétences, mais je veux dire, on ne peut pas l'exclure a priori. De même, on ne peut pas exclure que les mathématiques aient quelque chose à dire dans ce domaine, même si ça ne paraît pas aller de soi. Par exemple, en matière statistique ou de probabilité, il peut être utile, si vous voulez, de faire appel à des mathématiciens. Alors, l'objectif exclusif de cette démarche scientifique est de parvenir à des explications satisfaisantes selon les critères de la et des sciences. Alors, supposons la thomastologie fondée et surtout achevée. Et donc, elle a tout expliqué, tous les faits, qu'ils soient réels ou illusoires. Quel serait le statut cognitif de ce tout ? Que pourrait-on en dire dès aujourd'hui ? Pour répondre, il faut recourir à un troisième et dernier mode rationnel, à savoir que j'appelle le mode réflexif, ou la philosophie si vous préférez, mais je préfère mode réflexif et moins chargé d'histoire. Par définition, ce mode doit être rationnel, mais ni empirique, ni scientifique. S'il n'est pas rationnel, il n'a rien à faire ici. S'il est empirique, il faut le rabattre sur le mode empirique, et s'il est scientifique, il est scientifique. Alors, en tant que rationnel, ce mode doit être exempt de toute contradiction logique, d'une part, et d'autre part, en accord avec le vrai empirique et scientifique. ne peut pas se permettre d'entrer en contradiction, quelle qu'elle soit, avec les faits avérés et avec les explications vérifiées. Mais le mode n'est pas empirique et par conséquent, il échappe à l'observation sans pouvoir se substituer aux résultats atteints par le mode empirique. De même, il n'est pas scientifique et par conséquent ne trouve aucune explication par la voie scientifique sans pouvoir se substituer à la voie scientifique. Alors que peut bien être ce mode réflexif ? Je crois que deux objets, deux questionnements correspondent à ces critères extrêmement étroits. Premier objet, que l'on appelle généralement la gnoséologie, c'est-à-dire la réflexion rationnelle sur le connaître, sur ses conditions et sur ses limites. C'est un peu ce à quoi je me livre ce matin ici. Et deuxième objet, que l'on appelle dans la tradition occidentale la métaphysique, à savoir la réflexion rationnelle, du moins dans mon interprétation, sur l'élémentaire et sur l'ultime. Que peuvent dire la gnoséologie et la métaphysique sur l'étrange ? Commençons par la gnoséologie. Par nature et par définition, le connaître humain est humain. Et par conséquent, il est dans la dépendance des capacités cognitives humaines. Or, ces capacités cognitives sont limitées, nous le savons, d'une part par des contraintes, c'est-à-dire par des états de fait, si vous voulez, que l'on ne peut pas décider de modifier et encore moins d'ignorer. C'est quoi ? C'est par exemple les documents disponibles. Tous ceux qui ont pratiqué un peu l'histoire, ou même beaucoup l'histoire, savent que le connaître humain est strictement limité par la quantité et la nature des documents. Mais dans les autres sciences, les techniques d'observation et d'expérimentation sont soumises à contraintes. On ne peut pas faire tout dans cette direction. Notre limitation beaucoup plus grave et définitive viennent du fait que des horizons sont imposés au connaître humain. Pour s'en rendre compte, il suffit de poser la question « Pourquoi est-ce ainsi devant une proposition scientifique vérifiée ?» On m'a dit, j'ai lu ça, que E égale mc carré. Pourquoi mc carré et pas c ou cq ? Je suppose que les physiciens peuvent répondre à cette question. Je repose la question « Mais pourquoi est-ce ainsi et pas autrement ?» Et dès la deuxième, troisième ou quatrième réitération, il est obligé de répondre « parce que ». On ne peut pas aller indéfiniment, si vous voulez, prendre du recul, si vous voulez, comme dans un escalier en spirale, si vous voulez, et à chaque marche, expliquer pourquoi c'est ainsi. On est obligé de s'arrêter très très vite, essayer, vous verrez, pour dire « c'est comme ça ». Alors, pour aller plus loin dans ce sens, dépasser les horizons, eh bien, il faudrait une espèce mieux dotée. C'est tout à fait concevable, mais ça n'est pas imaginable. Parce que si on pouvait imaginer ce que pourrait connaître une espèce mieux dotée, eh bien nous serions déjà cette espèce. Et donc, l'horizon cognitif humain est indépassable au sens fort du terme. Alors, il ne faut pas en tirer la conclusion que ce qui peut être établi comme vérité en deçà de cet horizon deviendrait une erreur au-delà parce qu'une espèce mieux dotée aurait un point de vue qui permettrait... Non, on est peut-être assuré que 2 plus 2 vaudront 4 pour n'importe quelle espèce. Alors on peut discuter, les nominalistes ont discuté, est-ce que pour Dieu cela vaut aussi ? Enfin, comme nous ne sommes pas Dieu, nous laisserons cette question de côté. Personnellement, j'en doute profondément, je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour lui. Quelles applications thomastologiques peut-on faire de ce que je viens d'énoncer en matière gnoséologique ? D'abord, la documentation est toujours lacunaire et douteuse pour les faits anciens, exotiques et rares. Autrement dit, il est difficile pour tous ces cas-là, et ils sont tout de même très nombreux, et malheureusement sont les plus intéressants, d'aller au-delà de ces troublants. Bon, par exemple, pour des cas rapportés de réincarnation, de bilocation, de matérialisation, même au XIXe siècle, la documentation, enfin la collecte des faits concernant par exemple le magnétisme animal, comment dire, ne répond pas aux critères les plus rigoureux de la collecte des faits, de l'observation. Donc on ne peut pas toujours, je dirais on peut rarement, faire fond sur ce type de document. Mais comme on ne sait pas à l'avance quelles sont les limites, eh bien il faut aller y voir et recueillir tout ce qui peut être recueilli. C'est l'attitude de l'historien. Il ne peut pas savoir grand-chose sur le monde antique, sur l'Égypte, mais il peut savoir quelque chose, ben, il va y voir. Plus exactement, les communautés d'historiens vont y voir, ils le font depuis au moins 2 siècles, et l'expérience prouve que, en travaillant bien, beaucoup et longtemps, on arrive malgré tout à certains résultats. Pour ce qui est de l'horizon, bien, certains phénomènes, s'ils étaient vérifiés, ben, pourraient échapper aux capacités humaines d'explication. Par exemple, les cas de monition de l'avenir, c'est-à-dire des informations sur des événements à venir qui semblent, enfin qui sont signalés, si vous voulez, chez certains individus apparemment capables de bénéficier de ces informations par des canaux qui échappent, enfin qui ne sont pas les canaux habituels. Supposons que ce soit vrai. Il faudrait chercher l'explication dans une capacité à sortir du temps pour adopter un point de vue d'éternité, et où par conséquent la distinction entre le passé, le présent et l'avenir disparaît. Je ne vois pas la possibilité, si on me démontre le contraire, j'en serais très satisfait, comment on pourrait démontrer, si vous voulez, cette explication. Ça ne peut rester qu'une hypothèse, me semble-t-il, parce que c'est au-delà de nos possibilités. Mais ici aussi, comme on ne sait pas à l'avance où est l'horizon, et une fois parvenu à cet horizon, il demeure possible malgré tout de savoir ce que l'on ne peut pas savoir, ce qui est déjà savoir quelque chose. Et par conséquent, il faut aller y voir malgré tout, jusqu'aux limites, parce que ça fait partie tout simplement du devoir d'État, si vous voulez, d'un être humain qui se préoccupe de connaître le mieux et le plus loin possible. Je terminerai par la métaphysique, qui porte sur l'ontologie, du moins dans le vocabulaire européen. Dans un point d'appui empirique et scientifique, pourrait être, ou doit être, à mon avis, qu'il existe quelque chose. Même si c'est une illusion, cette illusion existe. Ce quelque chose, quel qu'il soit, révèle qu'il n'a jamais sa raison d'être en lui-même. Ce sont des conclusions de la rationalité empirique et scientifique. Convenons d'appeler contingent tout ce réel qui n'a pas en lui-même sa raison d'être. On en tire immédiatement, ou plus exactement, on peut bâtir un syllogisme à son propos, qui s'énonce de la manière suivante. Majeur, s'il n'y avait que du contingent, il n'y aurait rien. Or, il y a quelque chose, donc du non-contingent existe. Décidons d'appeler absolu le non-contingent. On peut résumer en disant que le contingent implique l'absolu. C'est une proposition purement logique. Laisse méditer sur cette proposition chez vous. Je continue. Qu'est-ce que l'absolu? Comment le définir? Non contingent est vague. Et si on creuse la question et qu'on essaie d'aboutir à une réponse, eh bien on aboutit à 3 interprétations cohérentes, équiprobables et indécidables de l'absolu, que je vous résume dans les termes suivants. L'absolu peut être transcendant, personnel, créateur de créatures contingentes. L'absolu peut être immanent, impersonnel, inhabitant des existants éphémères. Et enfin, l'absolu peut être l'ensemble en devenir perpétuel de devenants transitoires. Je pense que ces 3 définitions de l'absolu sont 3 attracteurs qui guide les réflexions humaines dans ce domaine depuis des millénaires et permettent de classer, de comprendre et peut-être d'expliquer les grandes traditions spirituelles que l'on constate en Asie antérieure, en Inde et en Chine, mais c'est une autre question. Comment appliquer ce que je viens de dire, je suis désolé de ce résumé abrupt, comment appliquer cela à la thomastologie? Eh bien, je crois qu'on peut déduire de chaque définition de l'absolu une position de principe à l'égard de l'étrange en général. Le plus simple pour le devenir, qui est séculier, qui n'a aucune dimension religieuse. Pour lui, rien de ce qui est réel n'est étrange en soi, mais au regard d'une conscience ignorante ou biaisée. Et donc, tout ce qui est réel a une explication rationnelle à rechercher par les modes empiriques et scientifiques, mais il se peut que certains faits dépassent les capacités humaines, ne serait-ce que décider quelle est la bonne définition de l'absolu, c'est indécidable, c'est au-delà de l'horizon humain. Pour l'immanence, tradition développée de manière approfondie en Inde et qui exige de la part d'occidentaux une acculturation dont tout le monde n'a pas déjà bénéficié, ça donnerait à peu près ceci. Donc pour l'immanence, rien de ce qui est réel n'est étrange en soi, ni au regard de l'absolu qui inhabite le réel. En conséquence, plus un existant s'identifie à l'être absolu qu'il est déjà et qu'il est de toute éternité, moins il doit affronter d'énigmes et de mystères. Et par conséquent, les humains peuvent savoir, beaucoup par les voies empiriques et scientifiques, mais pas tout, car ils ne sont pas déjà absolus. Ils n'ont pas déjà dépouillé, si vous voulez, leur gang contingent. Mais s'ils parviennent à s'identifier à l'absolu qu'ils sont déjà, eh bien ces questionnements n'ont tout simplement plus lieu d'être. Et par conséquent, les phénomènes les plus étranges sont des indices de l'approximation de l'absolu, ce qui est l'attitude traditionnelle, autant que je puisse savoir en Inde, sur ces questions. Enfin, pour la transcendance, rien de ce qui est réel n'est étrange en soi, ni au regard du Créateur, mais à celui d'une créature qui n'est pas absolue. Mais tout étant œuvre divine, tant le réel que la connaissance du réel, des créatures peuvent être capables de connaître le réel dans sa vérité divine, du moins dans les limites imparties ou imposées par leur statut contingent propre. Dans tous les cas, quelle que soit la position adoptée, les modes empiriques et scientifiques sont justifiés, mais sont en même temps limités, sans être en rien affectés par le statut de l'absolu. 2 plus 2 égale 4 dans toutes les hypothèses. Et par conséquent, toute vérité établie par la voie empirique et ou par la voie scientifique demeure une vérité. Ce qui, répète, on ne peut pas tout connaître parce qu'il y a des horizons, mais ce que l'on peut connaître à l'intérieur de l'horizon, du moment que cela résiste à toutes les réfutations, si vous voulez, est vrai, quelles que soient les positions métaphysiques adoptées. Mais ces trois interprétations ouvrent sur des développements que je qualifie de non rationnels. Non pas irrationnel. Irrationnel, c'est ce qui peut être réfuté, si vous voulez expliquer comme n'étant pas conforme à la raison, alors que le non-rationnel ne peut pas être ni démontré ni réfuté. La seule possibilité pour choisir malgré tout une position non-rationnelle est de recourir à un mode non-intellectuel, non-rationnel de connaissance, un mode suprasensible, on peut convenir de l'appeler mystique, pour lequel l'étrange est insignifiant et la connaissance rationnelle sans intérêt. Je vous renvoie aux écrits et aux propos des mystiques, sur toutes ces questions ne les intéressent absolument pas et ils détestent à peu près toujours tout ce qui est étrange. Conclusion à laquelle je suis conduit, il y a trois positions possibles devant tout ce qui est, je répète, relève de l'étrange. Deux positions sont légitimes. L'une, la connaissance rationnelle, empirique et scientifique, poussée aussi loin que possible. La deuxième, c'est l'indifférence mystique pour toutes ces questions, parfaitement légitime. Et une position me paraît radicalement illégitime et doit par conséquent être non seulement abandonné, mais poursuivi au sens de pourchasser, à savoir la préoccupation irrationnelle pour l'étrange. Soit il y a deux possibilités, et donc deux populations, soit pour y trouver des preuves du bon absolu, autrement dit, se consacrer à l'étude de ces phénomènes pour se donner un moyen d'accéder à une démonstration concernant les questions métaphysiques. Eh bien, ces preuves n'existent tout simplement pas. Et par conséquent, c'est parfaitement irrationnel et illégitime. Et deuxième possibilité, avoir des préoccupations irrationnelles pour l'étrange du fait d'un prurit, du paranormal, qui me paraît relever plutôt de la psychiatrie, et donc faire partie d'une science et échapper, si vous voulez, à l'attitude rationnelle ou à l'approche rationnelle des EMC que j'ai essayé de résumer. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Jean Béchler qui a proposé une approche rationnelle de l'étrange au cours de sa communication. Vous avez également pu entendre les propos introductifs de Bérénice Tournafond. Restez en notre compagnie et téléchargez dès maintenant la deuxième partie du colloque en compagnie de Pierre Buzer et François Gros sur les neurosciences pour approcher les états modifiés de conscience. Et pour connaître les dates des prochains colloques organisés par l'association Être Humain, une seule adresse internet, www.hommecontemporain.org. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.